Jessica Vial.
La montagne est toujours en mouvement dans le Lötschental, 4 jours après la rupture du glacier du Birch qui a enseveli le village valaisan de Blatten. Les éboulements au Petit Nesthorn se poursuivent selon le chef de l'information de l'état-major régional de conduite, Matthias Ebner. Quant au niveau de la rivière Lonza, il reste haut. Depuis vendredi, elle est parvenue à se frayer un chemin sur toute la longueur de l'énorme tas de gravats au fond de la vallée. Les géologues n'ont pas encore levé l'alerte, on ne sait pas encore quand les spécialistes pourront se rendre dans la zone. Au moins 22 personnes ont été tuées ce dimanche en marge d'une distribution d'aide dans le sud de la bande de Gaza. Plus de 120 autres ont été blessés par des tirs depuis des véhicules israéliens selon les secours. La défense civile de l'enclave palestinienne précise que des milliers de citoyens et citoyennes se dirigeaient tôt ce matin vers un site d'aide américain à l'ouest de Rafah, alors que l'espoir d'une trêve se heurte toujours à l'absence d'accord entre Israël et le Hamas sur une proposition américaine. La Russie traite comme des actes de terrorisme l'effondrement de 2 ponts cette nuit dans des régions du pays bordant l'Ukraine. Le comité d'enquête désigne des explosions dont le président russe Vladimir Poutine a été informé. C'est ce que rapportent aujourd'hui les médias d'État russes. L'écroulement du premier ouvrage a fait dérailler un train, causant la mort d'au moins 7 personnes. 2 personnes sont décédées cette nuit en France et 559 autres ont été interpellées lors des célébrations en marge de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur. Un homme de 17 ans a été mortellement blessé à Dax et un scooteriste a succombé à ses blessures après avoir été renversé à Paris. La Pologne vote aujourd'hui au second tour d'une élection présidentielle qui s'annonce serrée. Le scrutin oppose le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, centriste et pro-européen, à Karol Nawrocki, soutenu par l'opposition nationaliste. Le président polonais dispose d'un droit de veto sur les lois. Une victoire du candidat conservateur pourrait donc influer sur le rôle de la Pologne en Europe, sur le droit à l'avortement ou les droits des personnes LGBTQIA+. La Coupe de Suisse de football vivra la finale la plus déséquilibrée de son histoire cet après-midi à Berne. Le FC Bâle, champion en titre, affronte le FC Bienne, la première équipe de 3e division à se hisser à ce stade de la compétition. Le club zélandais espère toutefois créer la surprise. Une rencontre à suivre sur RTS2 dès 13h45. Du soleil au programme dans le ciel de ce dimanche, malgré des voiles de nuages élevés. Le ciel se fera plus chargé en seconde partie de journée et des averses ou orages sont possibles. Température en pleine, 28 degrés au maximum. Temps plus nuageux demain lundi avec un risque d'orage ou d'averses présent en matinée. Déjà, il se renforcera en cours de journée. En pleine, minimum 16 degrés et 22 degrés au maximum.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Envie de plonger dans les coulisses de l'info ? Le samedi 7 juin, la Gürtelen de Bienne devient le cœur battant du tout premier festival de journalisme en Suisse romande, le Prestival. Journalistes, correspondants à l'étranger, podcasteurs, rencontrez celles et ceux qui font l'actualité. Toutes les informations sur prestival.ch. Vous rêvez de vous glisser dans la peau d'une ou d'un journaliste ? Grâce à l'atelier interview pour changer le regard sur le handicap, organisé sur place par la RTS, c'est possible. Détails et inscriptions sur avecvous.rts.ch.
Les beaux-parleurs avec Jonas Schneider.
Et ce dimanche, François-Henri Benamias, Anna Lietti, Sylvie Makela, notre invité est Michel Santi, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir dans les beaux-parleurs. Vous êtes économiste franco-suisse, comme on le disait il y a quelques minutes. Vous avez notamment conseillé des banques centrales. Il y a quelques années, vous avez sorti un livre qui se nomme BNS, Rien ne va plus, un livre critique sur notre banque centrale, la Banque Nationale Suisse. Et puis tout récemment, vous sortez Une jeunesse levantine au sujet de votre jeunesse au Moyen-Orient. Donc on aurait pu vous inviter pour parler d'à peu près tous les sujets de l'actualité. Mais j'aimerais commencer sur la BNS, puisqu'on nous annonce un probable retour des taux négatifs en Suisse dans ces prochaines semaines. Plusieurs articles de presse, critiques notamment sur cette question ont été publiées. Est-ce que vous arrivez déjà à nous expliquer simplement, comme si on était des enfants, Michel Santi, pourquoi est-ce que la baisse des taux que la Banque Nationale Suisse peut décider, une baisse des taux qui reste jusqu'à des taux négatifs, pourquoi est-ce que cela arrangerait notre économie? Pourquoi est-ce que la BNS déciderait de baisser ses taux? Vous arrivez à nous expliquer ce mécanisme?
Mais écoutez, la BNS ne baisse pas ses taux pour punir les Suisses, pour punir les entreprises suisses. La BNS, elle agit de cette manière-là, de manière énergique. Bon, on n'est pas encore à nouveau dans des taux négatifs comme on l'était il y a quelques années, mais cela ne saurait tarder. La BNS réagit tout simplement. En fait, nous sommes victimes de la force de notre franc suisse, tout simplement. C'est que tout le monde veut du franc suisse. Et de quelle manière décourager, je ne dis pas décourager les Suisses, mais de quelle manière décourager les investisseurs, les spéculateurs étrangers de se ruer vers le franc suisse par tant d'incertitudes? Ben tout simplement, je veux dire, la seule manière de pouvoir les décourager, c'est en les pénalisant un petit peu. Et comment peut-on les pénaliser si ce n'est en leur disant, dès lors que vous détenez du franc suisse, pas du cash bien sûr, dès lors que vous détenez du franc suisse sur vos comptes bancaires, qu'ils soient en Suisse ou qu'ils soient à l'étranger, nous, Banque Centrale Suisse, qui décidons, parce que la Banque Centrale Suisse est la seule à pouvoir décider de son taux d'intérêt, c'est normal. Nous, Banque Centrale Suisse, nous allons décider que vous allez devoir payer pour cette détention de francs suisses. Donc voilà, c'est ça l'explication la plus immédiate.
Mais c'est quand même contre-intuitif. Le monde entier identifie la Suisse comme un refuge et décide d'acheter du franc suisse. On devrait en être fier, ça devrait être génial, ça devrait être une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'en fait c'est une mauvaise nouvelle que tout le monde veuille notre argent?
On peut en être fier jusqu'à un certain point, dans le sens où nous ne sommes pas qu'un pays de banque, Dieu merci. Nous sommes un grand pays exportateur. Et imaginez déjà la force de nos exportateurs. Je resitue un petit peu les choses. Lorsque l'euro a été lancé sur le marché, donc début des années 2000, je rappelle que 1 euro valait 1,60 francs. Et là, nous étions retombés au plus bas de l'euro, au plus haut du franc suisse à 0,80. Il y a quelques années, nous sommes pas très loin là. Nous sommes, je crois, 0,85, 0,86. Mais bon, la valeur du franc suisse a doublé.
Donc le prix de ce qu'on exporte, si on exporte une montre, elle est deux fois plus chère vue de New York.
Il faut rendre hommage à nos entreprises exportatrices, parce que d'autres entreprises exportatrices dans d'autres pays n'auraient pas pu s'adapter et non seulement sortir leur épingle du jeu, mais même gagner de l'argent, conserver leur marge bénéficiaire. Donc ça c'est la question centrale pour laquelle il faut rendre hommage aux Suisses, rendre hommage aux francs suisses, et quelque part nous sommes victimes de notre succès et de notre discipline aussi. Parce que ça demande beaucoup de discipline de pouvoir conserver des marges bénéficiaires avec un euro qui s'effondre par rapport à notre monnaie nationale. Et voilà, maintenant, la solution est simple. La Banque Nationale Suisse, dans un tel contexte, ne peut que réagir de cette manière, pour en revenir au début de notre conversation. Ou alors, il y a une autre solution pour affaiblir le franc suisse, c'est que du jour au lendemain, nous soyons désordonnés en Suisse. Nous n'inspirions plus confiance. Voilà, là, à ce moment-là, les gens ne voudront plus du franc suisse.
Ça peut être une autre stratégie. Mais concrètement, l'impact des taux négatifs, alors ceux qui suivent ça de plus près, ce sont les propriétaires, surtout ceux qui ont des hypothèques variables, hein, parce que ça, ils payent chaque fin de mois un loyer différent en fonction des taux. Alors pour eux, c'est une super bonne nouvelle, les taux négatifs. Il y aura quand même pas des taux d'hypothèque négatifs. Par contre, ça va s'approcher du zéro, donc du loyer gratuit, quoi. Donc ça, pour eux, c'est incroyable. Pour qui c'est une mauvaise nouvelle, les taux négatifs?
Ah, c'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants, c'est sûr, puisque puisque ben voilà, il fut un temps, il y a encore 2 ans, où subitement, on revenait à la mode, vous savez, des bons de caisse et des choses comme ça, qu'on avait connues dans les années 80, placer de son argent dans les bons de caisse, ou alors les placements fiduciaires en francs suisses retrouvaient un peu de vie, on pouvait placer peut-être à 2% en francs suisses.
Ou simplement avoir des intérêts sur son
voilà,
parcours,
avoir des intérêts.
Salaire, ouais.
Mais là, je pense que nous allons de retour à ce qu'on a vécu il y a quelques années, qui est un phénomène qui a dérangé non seulement les épargnants, parce que les épargnants n'avaient plus rien sur leur compte bancaire ou sur leur compte d'épargne, mais qui dérangeait aussi les fonds de pension. Moi, je me souviens d'un temps pas si éloigné que ça, que lorsque les taux étaient à zéro ou négatif, ou même les fonds de pension en Suisse retiraient du cash des espèces en grosse quantité. Dans un seul but, c'est que cet argent-là ne soit pas taxé. Donc,
c'est-à-dire qu'ils veulent même plus le placer, ils aimeraient le cacher sous un matelas, mais cacher 100 milliards sous un matelas, c'est pas évident.
Même les fonds de pension cédaient à cette propension un petit peu suspecte, oui.
Donc les futurs retraités devraient s'inquiéter, parce que leur argent aujourd'hui est placé en francs suisses, et c'est cet argent-là qui pourrait ne plus être là, perdre de la valeur, ou en tout cas ne pas croître comme il devrait pour leur retraite.
Pour relativiser un petit peu les choses, entre gagner 0% et gagner 2%, c'est pas une grosse marge. Je pense que nos retraités d'aujourd'hui ne misent pas sur les intérêts qu'ils vont gagner sur leur épargne ou sur leur retraite pour pouvoir vivre décemment, mais c'est quand même un manque à gagner, évidemment.
Des questions autour de la table pour Michel Santi, qui veut se lancer? Sylvie Maquel.
Une question assez novice, quoi. C'est-à-dire, est-ce que la Banque Nationale fonctionne comme une autre banque? À savoir que, est-ce qu'elle doit... comment elle fait, en fait, pour faire fructifier son argent? Est-ce qu'elle place son argent? Est-ce que... Voilà. Comment fonctionne la Banque Nationale?
Alors, la Banque Nationale Suisse n'est pas obligée de faire fructifier son argent. Comme toutes les banques centrales, notre banque centrale n'a pas à gagner de l'argent, tout simplement. Donc, l'objet du livre qui a été cité tout à l'heure et que j'ai écrit en 2023, « BNS, rien ne va plus », et précisément parce que la BNS a voulu spéculer avec l'argent du peuple suisse, mais il faut juste que je fasse un petit retour en arrière. Pourquoi est-ce que la BNS est tombée dans ce piège? Précisément à cause de la force du franc suisse. Une banque centrale, la définition d'une banque centrale, c'est qu'elle peut créer sa monnaie à partir du zéro, de néant. Donc voilà.
Elle imprime du franc suisse, même virtuellement.
Elle imprime digitalement, voilà. Oui. Donc elle imprime virtuellement. Et lorsque le franc suisse monte, lorsque le franc suisse est beaucoup demandé sur le marché d'échange, ce que fait la banque nationale suisse, comme le font d'autres banques centrales avec leur propre monnaie, elle crée du franc suisse et ensuite elle va le vendre sur le marché d'échange. L'objectif qu'elle aille le vendre sur le marché d'échange, c'est tout simplement le processus de l'offre et de la demande. En le vendant sur le marché d'échange, elle va pouvoir peser sur sa valorisation, et en contrepartie, elle va acquérir d'autres monnaies. Parce que le marché d'échange, c'est toujours un double flux de devises. On ne vend pas une devise contre rien du tout. On vend une devise en achetant une autre. Donc là, elle a vendu du franc suisse pour acheter des euros et surtout des dollars. Et pour en revenir à votre question, ces dollars qu'elle avait accumulés par centaines de milliards, au lieu de les placer de la manière la plus sage possible ou de la plus conservatrice possible sur des bons du Trésor américain qui sont le placement le plus sécuritaire au monde, enfin jusqu'à Trump, au lieu de les placer dans les bons du Trésor avec une rentabilité qui est proportionnelle au risque, c'est-à-dire une rentabilité basse, donc de l'ordre de 2-3% à l'époque, non, elle a pris cet argent, ces dollars, et elle a commencé à spéculer avec. Pour revenir à votre question, elle a essayé de faire fructifier. Et donc les traders de la BNS, réunis autour d'une table comme nous, leur salle des marchés à Berne, ils ont aussi eu des sous-traitants pour cela. Et voilà, donc ils ont majoritairement investi sur l'indice boursier américain le plus spéculatif et le plus volatile, le Nasdaq, qui s'est effondré en 2022. Et d'où les pertes de plus de
132 milliards
en 2022.
Mais ils l'ont fait pas pour leurs propres intérêts, c'est pas l'argent, c'est pas leur argent. Ils l'ont fait dans l'espoir d'amener un revenu à la Suisse, d'amener un revenu au canton, d'amener un revenu aux citoyens, c'est juste.
Mais ils ne sont pas obligés de le faire.
Mais c'est pour ça qu'ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. À mon avis, ils ont cédé à une... Ils se sont pris pour un hedge fund. Ils se sont pris pour un grand fonds de placement. Ils ont voulu essayer de faire en sorte d'influencer le marché. Parce que la BNS est habituée un petit peu à ses coûts. Rappelez-vous, lorsque la BNS a unilatéralement, du jour au lendemain, supprimer le plancher de l'euro contre franc suisse à 1,20. À ce jour-là, il y a eu le plus grand mouvement en franc suisse qui ait jamais existé au monde. La BNS a cru ainsi pouvoir punir les gens qui se ruaient vers sa monnaie, et ça n'a pas marché. La BNS, en essayant de spéculer sur le Nasdaq, bien sûr, si elle avait gagné, on lui aurait tous dit bravo, chapeau. Cela dit, pourquoi faire dépendre l'argent des Suisses d'un indice boursier aussi volatile et aussi spéculatif? Ce n'est pas ce que les Suisses demandent.
Compris. Une question d'Anna ou de François-Henri, qui veut se lancer?
Non, mais la mission divine, surtout de la Banque Nationale Suisse, ça ne devrait jamais être de spéculer. Ils doivent garantir une forme de stabilité absolue. Leur mission divine n'est absolument pas d'aller jouer avec l'argent.
On est d'accord avec ça.
Laissez l'invité répondre.
Je suis d'autant plus d'accord. Peut-être qu'ils voulaient en fait faire ma suggestion un petit peu vicieuse du début, c'est-à-dire en perdant ainsi de l'argent, faire perdre confiance en le franc suisse. Pour en revenir.
C'est du deuxième tiroir, là.
Je pense ça comme ça, en plaisantant. Mais en réalité, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas du tout dans leur mission sacrée que de spéculer ainsi et de faire perdre confiance dans, parce qu'il fut un temps où, la BNS, quand elle intervenait quand elle achetait des actions américaines, par exemple, et ça, je l'ai pas su de la BNS, parce que la BNS a un système très opaque, on ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait rien du tout de ce qu'elle a acheté ni vendu. Il a fallu que j'aille aux États-Unis, sur le site du régulateur américain, parce que les gros investisseurs institutionnels aux États-Unis sont obligés trimestriellement de remplir ce qu'on appelle le formulaire 13F, et c'est en décortiquant les formulaires 13F que la BNS est tenue par la loi de remplir trimestriellement, que j'ai vu dans quoi ils avaient investi.
C'est grâce à la transparence américaine que vous avez eu un peu de transparence sur la BNS. D'ailleurs, vous étiez candidat à la tête de la BNS. Vous auriez offert plus de transparence dans la BNS.
C'est votre programme. Très difficile d'offrir plus de transparence. Vous savez, ils sont trois à la direction générale de la BNS. Trois.
Parce que par défaut, ils n'ont pas le droit de dire.
Non, pardon. Trois à la direction générale de la BNS par rapport à une population de 9 millions d'habitants.
Oui.
Je me suis livré à des petites statistiques lorsque j'ai fait ce livre. J'ai comparé avec un tout petit pays comme l'Islande. L'Islande, c'est 350 000 habitants, je crois. Ils ont, dans l'équivalent de leur direction générale de la BNS, le comité directorial de la Banque Centrale d'Islande, ils sont 100 personnes.
Ça pose la question de la gouvernance. Moi, depuis tout à l'heure, je me dis, mais waouh, on a l'impression que c'est trois personnes qui font un peu comme ils veulent. Non, mais dans le sens, alors j'imagine que c'est. J'imagine qu'ils sont formés, que c'est des. Qu'ils savent un peu comment ça fonctionne, mais vraiment là.
Plus qu'un peu.
Ouais. Mais la gouvernance, c'est-à-dire qui surveille ce qu'ils font, qui est leur
une banque centrale est par définition indépendante. S'agissant de gouvernance, lorsque des journalistes ont par le passé demandé à la direction générale de la BNS pourquoi seulement trois membres, ben je vous assure que la direction de la BNS à l'époque a dit mais nous n'avons pas en Suisse suffisamment d'économistes qualifiés.
Bon, là où on est un peu injuste, c'est que la mission de la BNS, elle a clairement été donnée. C'est entre 0 et 2% d'inflation, c'est la mission qu'on donne. Et après, on dit à la direction de la BNS, on leur dit, vous avez la mission de faire ça et vous le faites à peu près comme vous voulez, avec les instruments que vous avez. Mais il y a une gouvernance qui est claire, c'est-à-dire le 0 à 2%, c'est pas eux qui le fixent. Ils choisissent pas librement le taux d'inflation qu'ils veulent dans le pays.
Ah non, le taux d'inflation, c'est quelque chose qui échappe totalement au pouvoir d'une banque centrale.
Bah, c'est quand même là-dessus qu'ils agissent.
Oui, ils peuvent agir avec le levier du taux d'intérêt.
Oui.
C'est comme ça qu'ils peuvent agir.
Oui.
Mais ce n'est pas eux qui décrètent, non, maintenant on va faire baisser l'inflation, par exemple, de 6 à 4%. C'est, on l'espère, avec l'activation de ce levier important, qui agit de manière tout à fait mécanique. Je l'explique, enfin, c'est très intuitivement, c'est facile à comprendre. Lorsque la banque centrale monte ses taux, elle pompe de la liquidité hors du système. Et lorsqu'elle baisse ses taux, elle injecte indirectement de la liquidité dans le système, d'où le fait réguler l'inflation.
Oui, parce que si les taux d'intérêt sont élevés, bah vous allez tous mettre l'argent sur votre compte courant et vous allez arrêter de le dépenser. Et ça permet en gros de
moins de consommation.
Ouais. Anna Lietti.
On a prévu de parler aussi du deuxième livre, n'est-ce pas?
Vous pouvez, allez-y, foncez.
Ah bon,
il reste 10 minutes.
Bon, alors...
Qu'est-ce que c'est le deuxième livre?
On finit chapitre.
Moi,
Une suggestion.
C'est même pas une question, c'est une suggestion. Pour les gens qui ont des bas revenus et qui vont avoir des retraites faibles et qui vont subir les taux négatifs, moi j'ai une petite recommandation sympathique. Je demanderais aux grandes banques, surtout la grande banque suisse, de dire, vous savez quoi? Vous allez faire le boulot qu'il faut pour ne pas leur charger, vous, à eux, les intérêts négatifs et charger les intérêts négatifs sur ceux qui ont plus d'argent que les autres. Ça vient. Ouais, moi je
vous voulez taxer les riches, vous?
Mais bien sûr.
Anna Lietti.
Pour regresser sur le sujet aussi.
Ouais, vous voulez pas parler du deuxième livre?
Non, oui. Parce
vous
que
avez lu le deuxième livre, c'est lui.
Malheureusement, pas lu le
deuxième livre. Ah voilà, je comprends.
Mais pour revenir quand même sur la gouvernance de la BNS aussi, le fait qu'il y ait apparemment une mission claire, puis ensuite ils font comme ils veulent, aujourd'hui il y a quand même des enjeux où toutes les entreprises, sur les enjeux sociaux, environnementaux, pourquoi est-ce que la BNS aussi, on pourrait dire ça aussi, dans la mission, qui pourrait imposer à la BNS de s'assurer que s'ils veulent jouer, s'ils ont le droit de spéculer, qu'ils spéculent au moins sur des fonds qui soient socialement plus respectueux.
Qu'ils investissent partout dans le pétrole.
Bah voilà. Ouais.
Bah, ils investissent beaucoup dans le pétrole, beaucoup dans le gaz de schiste, beaucoup dans les entreprises d'armement. Ça a défrayé la chronique il y a un an, ils avaient investi dans Elbit. Elbit, une entreprise israélienne qui fabrique des drones. Donc,
franchement, quoi, moi,
bonne transition avec le.
Exact.
Voilà.
Il faut qu'on vote pour monsieur pour revenir dans la BNS.
Allons-y. Qui vote pour devenir président d'ailleurs?
Oui.
Qui pourrait vous nommer pape?
Faudra me réinviter.
C'est clairement pas le peuple.
Non, certainement.
C'est les parlementaires?
C'est qui vote? C'est le conseil de banque.
Mais qui est le conseil de banque?
Des membres de la société civile qui sont élus. Et
on veut les noms, les adresses et les numéros de téléphone.
Une espèce d'autre parlement, c'est ça. Un parlement de la banque, quoi. Ok.
En réalité, c'est ce qui reste qui désigne. Pour parler de pape, c'est de la cooptation.
Anna Lietti, l'autre livre.
Alors oui, il y a un deuxième livre.
Une jeunesse levantine, sur sa jeunesse au Moyen-Orient.
Michel Santi raconte que je trouvais vraiment passionnant parce que on comprend des choses qui s'incarnent. Hein. Vous restituez par exemple les dialogues avec comment les gens parlent les uns des autres, c'est très très parlant. On comprend beaucoup de choses en lisant votre livre et je l'ai trouvé vraiment passionnant. J'ai une question un peu... Bon, je ne sais pas si elle est bête, mais disons, vous êtes né dans un petit pays qui s'appelle le Liban, qui était, avant de basculer dans la violence absolue, était un petit paradis de prospérité et un modèle de pluriculturalisme, comme la Suisse. Hein. Vous avez vécu ce basculement. Tout à coup, les différences entre les communautés sont devenues irréconciliables. Vous êtes en Suisse maintenant, vous avez vécu ce basculement. Est-ce que vous avez l'impression que la Suisse est totalement immunisée contre ce danger? Ou est-ce que, au fond, un jour ça pourrait nous arriver aussi?
Je ne pense pas. Sincèrement, les différences... Il y a des différences fondamentales. Vous avez parlé du multiculturalisme, bien sûr, pour le Liban, mais il y a surtout un autre phénomène qui était aux sources de cette guerre civile, c'est la religion. Donc,
Il y a eu des guerres de religion en Suisse, hein.
Oui, mais les Suisses, si vous voulez, maintenant, d'une manière générale en Europe, nous avons quand même une certaine distance, voire une distance certaine par rapport au sacré. En fait, nous ne voulons plus avoir trop affaire au sacré, nous ne voulons plus trop être influencés par cela, nous parlons de religion privée, de laïcité, etc. Je peux vous dire qu'au Liban, même maintenant, à plus forte raison dans la région, dans le Levant, puisque mon livre s'appelle une jeunesse levantine, puisque je suis un levantin. Les religions sont toujours omniprésentes parce qu'elles font précisément partie de l'identité des citoyens qui sont là-bas, aussi bien des chrétiens libanais que des coptes en Égypte, que des juifs en Israël, donc des alaouites en Syrie. Donc il faut bien comprendre que Dieu est omniprésent dans ces régions. Toutes ces religions dont je viens de vous parler, tous les membres de ces religions que je viens d'évoquer, que ce soit des juifs, des chrétiens, des musulmans, ils prononcent 50 fois par jour le nom de Dieu. C'est tout pour Inch'Allah, Dieu te préserve, Dieu te, voilà. Donc, Dieu est omniprésent. Donc, dans le langage, ça veut dire que dans leur rein, dans leur cœur aussi. Et donc, pour moi, ce qui a été aux sources de la guerre civile du Liban et quelque part la trame de ce livre, c'est les religions. Pour faire bref, je suis un petit peu né dans ce bain, un petit peu comme Obélix était né dans la potion magique. Donc catholique à la base, de mère chrétienne orthodoxe. Le premier grand chapitre de ce livre s'ouvre sur un pèlerinage à la Mecque où, en tant que catholique très très jeune de 12 ans, je suis invité par un prince saoudien qui me fait faire les 7 tours de la Kaaba.
C'est incroyable, vous faites le pèlerinage avec lui, c'est donc génial.
Peut-être qu'il m'a pas demandé de me convertir parce que c'est trop jeune ou office de diplomate, j'en sais rien. Mais je me rends compte à la fin du pèlerinage que c'est un monsieur très très important parce qu'il y a des gardes du corps partout. C'est le frère du roi et 30 ans plus tard, ce monsieur devient le roi d'Arabie Saoudite. Une de mes autres rencontres, enfin la rencontre phare si vous voulez de ce livre, le personnage phare de ce livre que je rencontre à Neuf-le-Château en 1978, c'est Khomeini, donc le guide spirituel, le chef sanguinaire de République islamique.
Qui n'est pas encore le guide spirituel.
Qui n'est pas encore, mais qui est chiite et qui me parle énormément de la religion, de la croyance chiite, qui n'est pas du tout la croyance sunnite, puisque les chiites représentent 15% de la masse des musulmans. En fin de livre, je suis à Jérusalem. Quelques temps avant, je tombe amoureux d'un étudiant juif à Paris où je mets l'étoile de David autour de mon cou et je ressens l'antisémitisme à Paris en 1981. Donc oui, les religions sont comme elles font la trame de mon livre, elles sont le reflet de ce qui s'est passé avec le démarrage de la guerre civile en 75 au Liban, qui se passe toujours.
Quand vous le présentez comme ça, on a l'impression que vous dites que les religions sont la cause de tous les maux actuels. C'est pas que ça, vous présentez aussi le côté positif de la religion, même la religion en finance,
oui,
la finance islamique par exemple,
voilà,
que vous présentez comme supérieure à notre système de finance, justement parce qu'il a des valeurs.
Alors, j'en parle pas dans ce livre, en effet, de la finance islamique, mais tout me ramène à la finance, finalement, c'est ça? mais effectivement, j'ai fait plusieurs notes sur la finance islamique qui n'utilise pas le levier, l'effet de levier, l'amplification dangereuse qui amène au bulles spéculatives.
Il se l'interdit.
Parce que la charia leur interdit, en effet. Mais pour en revenir au livre, effectivement, oui, je ne parle pas des religions en stigmatisant ces religions ou en disant, oh là là, quelle horreur, non, je suis encore là entier face à vous et d'une seule pièce, c'est 7 ans de ma vie que époustouflant que j'ai vécu et que je me suis finalement décidé à raconter, à écrire il y a 2 ans, je l'ai fait en quelque sorte pour témoigner qu'on peut sortir entier de tout ce que j'ai vécu de contradictoire et de transgressif.
Est-ce que on convoque suffisamment les religions comme facteur de paix dans cette région du monde? Parce qu'aujourd'hui, on demande beaucoup aux États de faire la paix, alors que la religion est souvent la cause profonde. On demande rarement aux religions, on va rarement rechercher dans les valeurs de ces religions pour avoir un discours de paix.
Vous savez, l'être humain interprète comme il a envie d'interpréter. Ça a toujours été le cas, que ce soit pour le Coran, pour la Bible, ou pour d'autres livres. Une personne lira, 10 personnes liront mon livre et elles y comprendront 10 choses différentes. Alors imaginez un livre saint. Donc oui, actuellement nous parlons, les frères musulmans font l'actualité depuis quelques semaines. Eux se réfèrent à des versets du Coran, aux versets les plus stricts du Coran, les plus agressifs du Coran, alors que dans le Coran il y a des versets qui plaident l'amour et qui plaident pour l'amour et puis la concorde entre les peuples. Oui, bien sûr, c'est tout dépend de l'interprétation. Et juste un petit mot pour
ce sera le mot de la fin,
pour expliquer, juste pour clarifier la croyance chiite qui n'est pas vraiment ce que l'on croit. C'est Khomeini qui me l'a expliqué. Les chiites laissent la porte ouverte à la contextualisation et à la réinterprétation du Coran grâce à un vecteur qui est l'imam, qui est le clergé, que les sunnites n'ont pas.
Compris. On lira donc Une jeunesse levantine, publiée aux éditions Favre, Michel Santi, ou alors BNS Rien ne va plus, ou les deux, ça ferait vos affaires.
Merci.
Merci beaucoup Michel Santi d'être venu dans cette émission. Merci Sylvie Makela, merci Anna Lietti, merci François-Ruben Amias, et merci à Robert Jessé qui était avec nous en première partie.
L'heure avec RTS Première.
Belle fin de week-end, il va être 12h30, c'est l'heure du journal de la mi-journée qui vous est présenté aujourd'hui par Zoé Decker. Bonjour Zoé.
Bonjour. La montagne reste instable à Blatten dans le Lechental. L'accès à la zone de l'éboulement est toujours impossible. Hier soir, le conseiller fédéral Martin Pfister est retourné dans la vallée. Il a rencontré les habitants évacués après l'effondrement mercredi dernier du glacier du Birch. Une visite chargée d'émotions, nous dira Déborah Solbank. Finale historique cet après-midi en Coupe de Suisse de football. Le petit pousset biennois en 3e division affronte le grand FC Bâle. Dès 14h, un choc des extrêmes sous les projecteurs du Wangdorf à Berne. Deuxième tour des présidentielles en Pologne ce dimanche. Le second tour oppose le progressif Trzaskowski au conservateur Duda. Les militants LGBT et pro-avortement espèrent un tournant, mais gardent les pieds sur terre. Le changement ne viendra pas d'un coup de baguette magique, nous dira notre correspondant à Varsovie. Quel est l'impact du cycle menstruel sur la performance des sportives? Le corps des athlètes ne suit pas toujours le calendrier des compétitions. Décryptage dans le point J. Côté météo, orage en vue cet après-midi en Suisse romande. Bienvenue à vous. 4 jours après l'effondrement du glacier du Birch dans le Lechental, la montagne reste instable au-dessus de Blatten en Valais. Des éboulements continuent de se produire au Petit Nestorn. Le cône de déjection reste trop dangereux pour toute intervention et l'alerte n'est toujours pas levée, faute de pouvoir envoyer des experts sur place. Le niveau du lac formé derrière les gravats a légèrement baissé. La rivière Lonza s'est frayé un chemin, mais la situation reste précaire. Dans ce contexte, le conseiller fédéral Martin Pfister s'est rendu hier soir à Villers pour rencontrer les sinistrés. C'est la deuxième fois qu'il se rend sur place depuis la catastrophe. Déborah Solbank, lors de cette rencontre privée, Martin Pfister a voulu exprimer la solidarité de la Suisse à l'égard de la région.
Oui, l'émotion était très forte hier aux abords de la salle de gym de Villers, dernier village avant Blatten. On a vu des gens qui se prenaient dans les bras, beaucoup de larmes aux yeux, beaucoup de pudeur aussi. Vous l'avez dit, cette rencontre était privée, c'est-à-dire que les médias n'étaient pas autorisés dans la salle où se tenait cette rencontre. Il y a des moments que les villageois veulent garder pour eux. À l'issue de cette rencontre, le conseiller fédéral est resté encore une bonne demi-heure à échanger avec les habitantes et habitants et nous lui avons demandé quel message il a voulu apporter à la population.
Oui, le message est vous n'êtes pas seul. Le conseil fédéral et aussi le canton est derrière la vallée, derrière le peuple. On leur aide pour le développement de nos nouveaux villages dans les années prochaines. On veut leur soutenir la population de Blatten.
Oui, Déborah, comment la population a-t-elle réagi à ce soutien?
De manière positive, semble-t-il, ce moment passé ensemble a été, malgré la tristesse, aussi convivial. Jürg Kalbermatten avait un appartement à Blatten où il passait tous ses week-ends et télétravaillait 2 jours par semaine. Pour lui, la présence du ministre de l'armée est un signal fort.
Bien sûr, d'un côté, c'est des mots. Mais d'autre côté, avec son département, il est ici pour nous aider. Ils sont prêts ici, en fait, pour avancer. Et puis, c'est vrai que lui, il était déjà ici pour la deuxième fois, pour nous démontrer que, de son côté, il y a la Confédération qui est à l'arrière, justement, d'une population qui est 300 habitants. C'est comme un signe qui est très, très fort. Parce que On est d'accord que c'est pas une vallée qui va trouver une solution, que c'est pas un canton du Valais, c'est l'ensemble qui va trouver une solution pour un futur de ce village de Blatten.
Un futur pour le village de Blatten, c'est vers cela que la population semble vouloir se tourner. Comment ? Les questions sont nombreuses et vertigineuses.
Déborah Solbank, merci beaucoup. Je rappelle que si vous souhaitez envoyer vos dons pour les habitants de Blatten, la chaîne du bonheur est mobilisée. Rendez-vous sur www.bonheur.ch. Alors, parmi les pistes évoquées pour l'avenir des habitants de Blatten, la reconstruction du village, une question qui revient ce matin dans la presse alémanique. Nicole de la Pietra, une question qui se retrouve dans toutes les éditions presque.
Oui, le sujet occupe beaucoup de place dans les pages de la Sonntagszeitung et du Sonntagsblick. Et puis, il y a aussi ces doutes soulevés par la NZZ am Sonntag. La reconstruction est-elle vraiment réaliste, hein, malgré toutes les belles promesses des politiciens? Ne faudrait-il pas revoir l'usage des vallées alpines à risque et en finir une bonne fois pour toutes avec le mythe alpin helvétique et le journal de rappeler la position provocatrice d'Avenir Suisse il y a juste une année après les intempéries en Valais et les éboulements au Tessin, que tôt ou tard, la protection et la mise en état des zones à risque ne pourront plus être financées. Et justement, des propositions politiques émergent, celle des Verts dans le Sonntagsblick de revoir la péréquation financière et celle de l'UDC qui veut puiser dans l'aide au développement en faveur des zones de montagne.
Oui, dans la presse, Nicole, de ce dimanche également, la guerre à Gaza qui continue de susciter des réactions jusqu'en Suisse.
Oui, le Sonntagsblick qui nous apprend que 55 anciens ambassadeurs et deux conseillers diplomatiques critiquent le ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis pour sa retenue face à la crise de Gaza. Il l'exhorte à plus de fermeté et à agir concrètement envers Israël. Le journal rapporte aussi que des employés du DFAE ont eux aussi adressé une lettre interne à leur chef lui demandant de condamner, je cite, fermement les opérations aveugles de l'armée israélienne. Et puis dans la Sonntagszeitung, le délégué du Conseil fédéral à l'aide humanitaire, Dominique Stillhart, critique vertement la Gaza Humanitarian Foundation, dont l'action est selon lui discutable et insuffisante. Seule solution, dit-il, le lever du blocus d'Israël pour l'aide humanitaire.
Et pour terminer, un coup d'œil au contenu empoisonné de nos assiettes, Nicole.
Oui, la NZZ am Sonntag en fait même sa une. Les paysans de Suisse orientale continuent de vendre de la viande contenant des taux élevés de PFAS. Pour rappel, ces substances chimiques toxiques et persistantes, aussi appelées polluants éternels. Et même si les normes européennes ont été adoptées l'an dernier par la Suisse, certaines fermes continuent de livrer leur viande au commerce et ce n'est pas interdit. Le canton de Saint-Gall, qui se veut pragmatique, est en phase de transition pour appliquer la nouvelle législation et le journal de rappeler que la problématique des PFAS concerne toute la Suisse.
Merci beaucoup Nicole. J'imagine que les journaux alémaniques ont consacré quelques pages sportives également à la finale de la Coupe de Suisse, coup d'envoi dans 1h30, le FC Bienne qui affronte le FC Bâle. Un rendez-vous historique puisque c'est la première fois qu'une équipe de 3e division dispute la finale de la compétition. Grégoire Rogier, on vous retrouve au Wangdorf de Berne. Cette finale semble bien déséquilibrée.
Oui, c'est à coup sûr la finale la plus déséquilibrée de l'histoire. Le FC Bienne, pensionnaire de Promotion League, le 3e niveau helvétique, peut réaliser un authentique exploit en cas de succès cet après-midi. Le FC Bâle, tout nouveau champion de Suisse en titre, a toutes les cartes en main pour réaliser le doublé cette saison en remportant la 14e Coupe de Suisse de son histoire. Mais dans le camp biennois, on croit totalement en ses chances. Le milieu de terrain, Freddy Mweng, a déjà disputé 2 finales de Coupe dans sa carrière. Il connaît les ingrédients dont a besoin le FC Bienne pour rêver à la victoire.
On verra. Cette fois-ci, on va la jouer un peu plus modeste, plus réaliste. C'est clair que voilà, Bâle est grand favori, mais le contexte du match fait que, comme contre IB ou même contre Lugano ou même contre Samax, on a toutes nos chances. Si c'est un match de championnat, je vous dirais, venez regarder votre saucisse, puis on en prend 3 ou 4, et puis après on va se boire un petit verre. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. La finale fait qu'ils ont une pression supplémentaire que nous on n'a pas. Donc on a toutes nos chances, et on sait qu'un peu ce qui s'est passé contre Lugano et IB, plus le match dure, plus à notre avantage, parce que 1-0 chez nous, ça nous suffit.
Le FC Bienne a pour lui d'avoir donc déjà éliminé deux formations de Super League, Lugano et Young Boys, pour arriver jusqu'à cette finale. Seulement, cette dernière marche semble bien haute pour les Biennois. Le FC Bâle est en pleine confiance. Les Rennes viennent de décrocher leur 21e titre de champion de Suisse, porté par un exceptionnel Sherdan Shaqiri. Le FC Bâle peut, en cas de succès aujourd'hui, signer le 6e doublé de son histoire et ainsi valider définitivement son retour au sommet du football suisse.
Et cette finale entre Bâle et Bienne est à suivre en direct dans Sport Première dès 14h, ainsi qu'en image sur RTS 2. Et autre match de football inédit, la finale de la Ligue des Champions remportée hier soir par les joueurs du PSG, le Paris Saint-Germain qui a battu l'Inter Milan 5-0 à Munich. Les célébrations ont duré toute la nuit dans les rues de Paris et ailleurs, en France d'ailleurs, avec des débordements violents qui ont conduit à près de 560 interpellations dans tout le pays et au décès de deux personnes. Et on reste en France, direction la terre battue de Roland-Garros. Ce dimanche donne le coup d'envoi de la deuxième semaine de compétition avec le début des huitièmes de finale. Bernardin Allemann, vous suivez le tournoi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le tableau féminin réserve une deuxième semaine royale.
Oui, parce que la surprise de la première semaine, Zoé, eh bien, c'est justement l'absence de surprise, ce qui fait par exemple que 8 des 10 premières têtes de série sont toujours présentes, alors qu'il ne reste que 16 joueuses pour aller chercher le titre. Ça signifie qu'il n'y a désormais plus de matchs faciles et on va avoir de formidables empoignades. La première d'ailleurs met aux prises en ce moment sur le central Yasmine Paolini, l'italienne, et Elina Svitolina, l'ukrainienne. C'est Paolini qui mène 6-4, 5-4, le magnifique match. Yasmine Paolini qu'on a véritablement découvert l'an dernier. À 28 ans, elle n'avait jamais gagné deux matchs de suite en Grand Chelem. Et puis, soudainement, la belle histoire, elle dispute 8e de finale en Australie, finale à Roland-Garros, finale à Wimbledon, 8e de finale à l'US Open. Et puis, suite à cette année 2024 vécue comme un conte de fées, eh bien, elle confirme cette saison, son sourire communicatif, tout vraiment une raison d'être sportive. Et sa petite taille ne l'empêche pas de développer une belle puissance. Et si elle se qualifie, elle pourrait bien tomber en quart de finale face à la quadruple vainqueur du tournoi, Iga Świątek.
Merci Bernardin Lehmann, un tournoi à suivre sur les vecteurs de la RTS. Les Polonais s'apprêtent à élire leur nouveau président aujourd'hui, deuxième tour de l'élection. Les défenseurs des droits des minorités espèrent à la victoire de Rafał Trzaskowski. Son élection mettrait fin au veto du président Duda sur l'avortement et les droits LGBT. Mais les militants restent prudents. Même une victoire du maire de Varsovie ne garantit pas de réels progrès. Reportage de notre correspondant Adrien Sarla.
Pour Bartoszewski, l'enjeu du scrutin est immense.
Pour moi, ces élections sont les plus importantes depuis des années.
Cette figure de l'activisme queer s'était rendue célèbre en combattant les zones libres de l'idéologie LGBT en Pologne sous le mandat des ultra-conservateurs du PiS.
Si le candidat de droite, Nawrocki, devient président, on peut oublier l'union civile pour les couples de même sexe et les lois condamnant les insultes homophobes. À l'inverse, des lois comme celle en Hongrie qui interdisent la marche des fiertés pourraient voir le jour. Ils ont soif de vengeance après l'élection de Tusk et ils vont bloquer tous les mouvements sociaux.
Mais comme les militantes féministes, il est conscient qu'une victoire de Trzaskowski ne sera pas forcément synonyme de progrès pour les minorités. Selon Antonina Lewandowska de l'association pro-avortement Fédéra, la situation forcera au moins le gouvernement à assumer ses responsabilités.
L'un des arguments de la coalition de Tusk pour ne pas changer la loi, c'est que le président opposera son veto. Mais si le nouveau président est issu de la coalition au pouvoir, ils ne pourront plus se tourner vers cet argument. Alors on va pouvoir leur demander des comptes pour vérifier si l'immobilisme sur ces questions est vraiment dû à l'opposition du président ou à une opposition qui viendrait de l'intérieur de la coalition.
Au mois de juillet déjà, la proposition de loi pour dépénaliser l'avortement avait été bloquée par la frange la plus conservatrice de la coalition, sans même laisser au président le loisir d'y apposer son veto.
Adrien Sarla, notre correspondant à Varsovie. Des tirs israéliens ont fait au moins 10 morts et plus de 100 blessés aujourd'hui dans le sud de la bande de Gaza. Les victimes se dirigeaient vers un centre américain de distribution d'aide alimentaire selon la défense civile de l'enclave palestinienne. Le Hamas a dit hier avoir remis au médiateur sa réponse à la proposition américaine de trêve dans la région, mais cette réponse a été jugée inacceptable par les États-Unis qui critiquent un retour en arrière. Washington avait indiqué plus tôt dans la semaine avoir reçu l'assentiment d'Israël à cette proposition. L'Iran critique le nouveau rapport du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Téhéran affirme que ce rapport contient des accusations sans fondement contre le programme nucléaire iranien. Siavosh Ghazi, le pays menace de riposter si les pays européens utilisent ce rapport à des fins politiques.
Dans un entretien téléphonique avec le directeur général de l'AIEA, le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que Téhéran réagira à toute action inappropriée de la part des pays européens et des États-Unis. Paris, Londres et Berlin, avec l'appui de Washington, veulent en effet s'appuyer sur ce rapport pour déclencher un mécanisme qui permet le retour des sanctions onusiennes contre l'Iran. Dans son rapport, Raphaël Grossi a révélé que l'Iran avait fortement accéléré son programme d'enrichissement d'uranium, notamment l'enrichissement à 60%, un seuil qui est proche de celui des 90% utilisé pour la fabrication de l'arme atomique. Cette nouvelle tension intervient alors que les États-Unis ont remis leur proposition à l'Iran après 5 séries de discussions indirectes. Selon plusieurs médias américains, Washington demande à Téhéran d'abandonner totalement son programme d'enrichissement d'uranium, ce que Téhéran refuse. Dans ces conditions, les négociations entre Téhéran et Washington semblent se diriger vers une impasse, alors qu'Israël menace de lancer des frappes contre le programme nucléaire iranien. Siavash Kiazi, RTS Téhéran.
Et pour les amateurs de fromage, c'est à Saint-Gingolph que ça se passe aujourd'hui avec une raclette géante franco-suisse. L'événement annuel célèbre la fin de la guerre de la raclette entre les deux pays et cette année, il prend une ampleur particulière. Des centaines de convives sont attendus. Le célèbre humoriste Chicandier et Eddie Baifar, surnommé le pape de la raclette suisse, de quoi faire fondre les dernières tensions autour de ce plat emblématique.
Le 12-30 Zoé Decker.
Et aujourd'hui, le Point J s'intéresse à l'impact du cycle menstruel sur la performance des sportives.
Je ne crois pas avoir très bien nagé aujourd'hui et j'aimerais m'excuser auprès de mes coéquipières.
Vous semblez avoir très mal au ventre.
Oui, en réalité, mes règles ont commencé cette nuit. Donc je me sens très faible et vraiment fatiguée.
Oui, vous avez bien entendu, cette nageuse chinoise parle de son cycle menstruel en direct à la télé. Ça vous étonne? Ça vous semble normal? Bon, à ce moment, on est en 2016 au JO de Rio et cette athlète, Fu Yuanhui, sans le savoir, lance le mouvement. Aujourd'hui, les sportives de haut niveau sont de plus en plus nombreuses dans toutes les disciplines à briser ce tabou, les règles.
Déjà, nous, on a un sport à catégorie de poids.
Clarisse Agbenenou, judokate française.
Quand on est une femme et qu'on a nos périodes, on a nos règles, bah on prend du poids, on sent pas trop bien, même pendant les entraînements. Du coup, oui, c'est quelque chose qu'il faut aborder, c'est totalement logique et normal, parce que si ça permet d'être diminué au niveau de la performance, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, ben on n'a pas le choix.
Mais alors, quel est l'impact du cycle menstruel sur la performance des athlètes?
Le Point J.
Avec Juliane.
À ce jour, il y a beaucoup d'idées reçues où on va stéréotyper un cycle menstruel, où il y a des phases où on est très énergique et des phases où on va être très fatiguée ou moins performante. Bah, on est toutes extrêmement variables. Certaines femmes vont être très impactées, pendant que d'autres ne le seront pas. Puis c'est ce qu'on va essayer de démystifier là.
Elle, c'est Anna Stittelmann. Elle est physiothérapeute du sport. Elle travaille au Centre de médecine du sport des HUG et enseigne à la Haute École de Santé de Genève. Elle consacre son doctorat précisément à ce lien entre cycle menstruel et performance des sportives. Et puis toujours dans ce Point J, on découvrira comment les joueuses de foot de l'équipe suisse s'entraînent. Et vous verrez, la question du cycle menstruel est bien présente. On en parle à la fin de cet épisode. Bonjour Anna Stittelmann.
Bonjour.
Depuis quand on s'intéresse au lien entre cycle menstruel et performance sportive des athlètes féminines? Dites-nous, est-ce qu'il y a beaucoup d'études à ce sujet?
Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'il gagne en popularité dernièrement et on en parle beaucoup. Mais c'est pas une question tant récente que ça, parce que la première étude qui avait été publiée sur le sujet, ça date de 1876. Avec donc une médecin femme, la doctoresse Jacobi, qui avait publié le premier article qui avait étudié les effets des menstruations sur l'activité physique et le repos. C'est une époque où du coup on analysait beaucoup les menstruations avec le repos, et puis les femmes n'avaient pas le droit forcément de faire une activité sportive. Et donc elle était assez innovatrice dans ce sujet-là, parce qu'elle a réussi à montrer que la fréquence cardiaque ne changeait pas pendant les menstruations, et du coup que les femmes ne devaient pas se reposer à ce moment-là. Donc heureusement, maintenant les études ont évolué. On a passablement beaucoup d'études sur le sujet maintenant qui se publient, simplement qu'on a un gros problème de qualité des études par rapport au fait de monitorer le cycle et qu'est-ce qu'on entend par un cycle menstruel.
Bon, avant d'aller plus loin, un petit rappel historique s'impose. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les médecins ont bâti tout un discours sur la supposée fragilité du corps féminin, fait pour enfanter et pas pour performer. Les médecins et les fédérations sportives ont donc utilisé pendant longtemps cet argument pour dissuader, voire exclure les femmes des compétitions sportives.
Les médecins, ils disaient que la femme qui courait
elle aurait des problèmes d'utérus. L'utérus allait tomber dans le bas-ventre et puis que même elle allait avoir la barbe qui poussait.
Odette Vetter, première femme à entreprendre en 1975 la course mort à Fribourg malgré l'interdiction.
Et elle ne pourrait se transformer en homme et elle n'aurait jamais d'enfant.
Ces croyances liées au corps des femmes perdurent encore aujourd'hui dans des idées reçues comme, par exemple, une femme enceinte ne devrait pas faire de sport ou, pour revenir à notre sujet, une femme qui a ses règles serait moins apte à concourir. Mais qu'en est-il vraiment? Eh bien justement, on revient à Anna Stittelmann et les études qu'elle a menées dans le cadre de son doctorat.
On a donc ce qu'on appelle des méta-analyses, donc c'est le plus haut niveau de preuve dans la communauté scientifique, qui ont essayé d'évaluer ce lien. Donc ce qu'eux, ils semblent dire, c'est qu'on peut être légèrement impacté en fait pendant la phase des menstruations, donc au moment où on a nos règles, mais c'est un effet qui semble vraiment très petit. Et le problème, c'est que c'est extrêmement variable dans les études scientifiques. Donc certaines études montrent qu'il y a un effet, d'autres pas, elles se contredisent beaucoup. C'est qu'on a vraiment un problème de qualité dans ces études. Le problème dans les études scientifiques actuellement, c'est qu'on inclut toutes les femmes qui ont un cycle menstruel. Simplement, les femmes qui ont un cycle menstruel, même quand le cycle menstruel va bien, c'est très très variable. Certaines femmes ont un cycle de 22 jours, certaines ont un cycle de 31 jours. Et puis quand on effectue les études, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout monitoré la quantité d'hormones qu'on a sécrétées, qu'on n'a pas du tout monitoré la durée du cycle. Puis en fait, finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on mesure dans ces études-là. Donc non, on ne peut pas vraiment affirmer qu'il y a une phase où on peut être moins performante ou moins forte qu'à une autre. Ouais.
Plus en détail, les études n'ont pas pu établir à ce jour de lien entre les fluctuations hormonales et une variation objective de la force, de la fatigabilité, de la capacité de récupération ou du risque de blessure. Par contre, et Anna Stittelmann en parlait juste avant, les études montrent qu'il existe bel et bien un ressenti subjectif des femmes, jusqu'à 7 athlètes sur 10, selon une étude, qui se sentent impactées par le cycle dans leur performance. La raison principale, ce sont les symptômes qui surviennent avant ou pendant les règles. Ils peuvent être d'ordre émotionnel, physique ou cognitif. Fatigue, dysménorrhée, c'est-à-dire douleur dans le bas-ventre ou le bas du dos, difficulté de concentration, se sentir moins puissante, difficulté de communication, manque de confiance en soi. Bon, je m'arrête là, la liste, elle est longue. Plus de 200 symptômes ont été répertoriés. Cette dimension subjective, on n'en tient pas assez compte, selon Anna Stittelmann.
C'est ce qui manque dans la majorité des études, où en fait, on veut essayer de trouver un lien de causalité entre les hormones et la performance et dire « Ah, cette phase-là, tu sécrètes plus d'œstrogènes, donc tu vas développer plus de force. » Non, à ce jour, il n'y a pas d'évidence scientifique à ce niveau-là. Par contre, à cette phase-là, je me sens toujours systématiquement extrêmement fatiguée et moins performante. Il semblerait qu'on ait beaucoup négligé l'impact des symptômes dans la performance, qui semble très logique. Donc effectivement, il y a peut-être un intérêt à dire à ce moment-là, on va épargner l'athlète, faire des intensités un petit peu moindres et puis utiliser une phase où elle se sent très bien pour mettre plus d'intensité.
J'ai choisi de ne pas utiliser de contraception hormonale car je souhaite rester en phase avec mon cycle naturel. Cela m'aide à comprendre comment mon corps réagit tout au long du mois.
La cycliste néerlandaise Demi Vollering sur sa page Insta, un post qui date du 1er mai 2025.
Oui, certains jours sont plus difficiles. Énergie en baisse, sommeil perturbé, jambes douloureuses, coordination altérée ou motivation plus difficile à trouver. Mais d'autres jours, comme ceux qui suivent les règles, peuvent être un véritable boost. La force revient, l'humeur est meilleure, la récupération s'améliore, le besoin de sommeil diminue. Cette cadence, quand tu la connais bien, peut devenir un véritable outil de performance.
Tout ça, c'est vraiment individuel finalement.
Totalement, parce que pour un même cycle qui peut sembler semblable entre deux femmes, donc qui ont peut-être sécrété la même quantité d'œstrogène ou de progestérone, certaines vont être impactées et vont avoir beaucoup de symptômes, tandis que d'autres, pas du tout. La grande problématique qu'on a actuellement avec le cycle menstruel, c'est que les symptômes sont normalisés par les athlètes. Enfin, si je stéréotype, elles pensent que c'est normal, qu'elles doivent vivre avec, que c'est un sujet à gérer entre femmes, donc elles vont pas forcément en parler avec le staff médical. Et je pense que déjà juste commencer à prendre en compte leurs symptômes, les questionner, regarder est-ce que c'est cyclique, est-ce que c'est lié à leur cycle ou est-ce que c'est pas juste une autre pathologie en lien, ça va permettre aussi qu'elles apprennent à se connaître et puis en fait à traiter les symptômes s'il y en a et faire quelque chose en lien.
Salut les points J.
Salut.
On vous aime beaucoup et on vous écoute souvent.
Sophia et Carlo.
On vient de voir le spectacle de Béjart Ballet à Lausanne et on était très impressionnés du niveau artistique et physique des danseurs et des danseuses. Et aussi, on a un peu suivi les Jeux Olympiques. Et les deux fois, on s'est demandé...
Les spectacles, les compétitions tombent sur une date établie à l'avance.
Si le jour du concours ou du spectacle tombe pendant la règle, comment gère-t-elle?
Merci.
Qu'est-ce que vous leur répondez?
Alors, c'est une excellente question. Il y a deux causes par rapport à est-ce qu'on s'entraîne pendant nos menstruations ou pas. La première, c'est que si on se pose la question à cause des symptômes et que finalement ça impacte notre activité sportive, c'est qu'on est dans des symptômes qui sont pas forcément tolérables. Et que là, il faut aller en parler avec notre gynécologue et aller traiter ces symptômes et pas juste vivre avec ou juste éviter l'activité sportive par rapport à ça. Donc ça, c'est mon premier point. Ensuite, la deuxième, on peut avoir des athlètes qui vont avoir peur d'avoir des risques de fuite ou des risques que les menstruations se voient et du coup vont limiter leur activité sportive par rapport à ça. Donc, il faut juste se poser la question, est-ce qu'on est satisfaite aussi avec nos protections hygiéniques? Sinon, il y a beaucoup de panoplies d'outils maintenant qui existent. Et puis après, il y a une deuxième un peu plus politique, plus au niveau des institutions où il faut qu'on s'améliore. Ils ont cité le ballet, par exemple, où les femmes, elles ont une pression esthétique qui est énorme et souvent avec une tenue vestimentaire qui est inadaptée aux femmes qui ont actuellement des menstruations. Donc il y avait eu cette grande thématique des shorts blancs chez les footballeuses par exemple, où je pense à toutes ces gymnastes, à ces danseuses qui ont des justes corps très serrés et qui sont pas forcément adaptées par rapport à ça et qui peuvent du coup impacter notre confort et notre performance.
Il y a des femmes qui prennent la pilule et qui vont retarder ce jour des règles ou de début des règles.
Oui, je pense que c'est peut-être le moyen le plus confortable si finalement on sait qu'on va être impacté à ce moment-là. J'ai déjà entendu au niveau des athlètes qui le font. Je pense qu'effectivement, si on joue les JO pour la seule fois de notre vie et puis que c'est un facteur psychologique qui va nous impacter et qui nous stresse, évidemment qu'on va le faire. Après, j'irai plus sur le long terme et sur notre santé. Finalement, on décale le problème au lieu d'aller chercher une cause et traiter la solution.
Les sportifs de haut niveau sont de plus en plus sollicités à télécharger des applications pour suivre leur cycle mensuel. On parle là de tracking. Comment est-ce que vous analysez cette pratique, Anna Stittelmann?
Alors, il y a un côté positif dans le sens où c'est aussi un moyen de briser le tabou, de parler de nos symptômes, de vérifier aussi qu'on a un cycle menstruel qui est sain. Parce que quand on pose la question, dire est-ce que ton cycle menstruel est régulier, donc un cycle menstruel en bonne santé, la plupart des athlètes ne savent pas. Donc c'est aussi un état des lieux et d'avoir une image de notre cycle menstruel. Aussi voir si nos symptômes sont cycliques. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Après, c'est quand même une pratique dont il faut faire attention. Il peut y avoir des dérives, pas que ça devienne un outil de contrôle de la part des clubs sportifs ou des coachs de venir contrôler les athlètes à quelle phase de leur cycle, etc. Elles sont surtout par le manque d'évidence scientifique.
Alors, on a parlé de l'impact du cycle menstruel sur la performance. Finalement, quel est l'impact de la performance des sportifs de haut niveau sur leur cycle menstruel?
Oui, c'est aussi une bonne question. À haut niveau, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des troubles du cycle menstruel de par une activité sportive qui est intense et qui est majoritairement liée à une déficience énergétique qu'on appelle relative. Ça veut dire que on pense manger suffisamment par rapport à quelqu'un lambda, mais de par notre activité sportive, si on s'entraîne 15-20 heures par semaine, on peut rentrer dans un déficit énergétique qui est involontaire et ou volontaire. Et s'il est prolongé et perduré, notre cycle va se dérégler. Donc on va avoir des cycles qui se rallongent, on peut être aussi plus symptomatique. Et là, par contre, on sait que ces troubles du cycle, ils ont un impact sur la performance. On va avoir ce qu'on appelle une maladaptation à l'exercice. On va être aussi plus exposé à un risque de blessure. Et puis à terme, si vraiment c'est un déficit chronique, on peut développer de l'ostéoporose. Donc c'est quand on a une perte de densité osseuse. Donc ça, ce serait dans le cas extrême. Le cycle menstruel, c'est quelque chose de très à la mode. C'est une bonne vitrine aussi de dire quelque chose qu'on fait pour les femmes. Donc on va dire, on fait quelque chose de spécifique à l'athlète féminine, on les prend en compte. Simplement, actuellement, on est plus dans une politique de dire le cycle menstruel est un problème à résoudre plutôt qu'un allié par rapport à ça. Mais surtout, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que les bases sont respectées? Et un des problèmes, par exemple, c'est le problème financier chez les athlètes. À même niveau entre les athlètes féminines et masculines, elles vont pas du tout avoir les mêmes ressources financières pour performer et être plus à risque de blessure de par un problème de structure financière plus qu'un problème hormonal.
Merci beaucoup, Anna Stittelmann.
Merci à vous.
Les filles, elles peuvent aussi bien jouer au foot que les garçons.
Une archive de la TSR en est en 1978.
Les médecins, ils disent que non, parce que on est à cause de notre ventre, on peut pas. On est fragile, tout, mais c'est nos affaires. Puis on fait ce qu'on veut quand même dans la vie.
Et à propos de foot, les 23 joueuses de l'équipe suisse se préparent en ce moment pour l'Euro à venir. Mélanie Poli est l'une de leurs deux préparatrices physiques. Elle s'occupe du développement athlétique et de la prévention des blessures pour l'Association suisse de football. Elle m'a expliqué que depuis 5 ans, elle tient compte du cycle menstruel dans la préparation des joueuses.
Le cycle menstruel, c'est une toute petite pièce dans le grand appareil complexe de la performance. Le cycle menstruel, c'est simplement un outil qui est gratuit, qui nous donne plein d'informations sur nous-mêmes, sur la façon comment on se sent, sur nos bien-être. Et puis ces infos, on peut les analyser et puis trouver des stratégies pour justement améliorer le bien-être. Et c'est ce bien-être qui va en fait impacter sur notre performance. Donc oui, on enregistre le cycle, oui, on le traque depuis 5 ans. Donc on connaît bien les tendances, les joueuses connaissent leurs tendances, pas seulement négatives, mais aussi positives. Donc c'est important de trouver des stratégies après qui puissent les aider justement à soit diminuer les symptômes, soit à les faire disparaître complètement. C'est une approche holistique, ça peut être mental, nutritionnelle, régénération ou même d'entraînement.
Cette approche individualisée, elle concerne principalement les activités avant et après l'entraînement collectif et aussi la gestion de la charge d'entraînement. Merci à Sophia et à Carlo pour leur audio qui a inspiré cet épisode. Bonne écoute et à très vite.
C'était Julien Ronconi et l'équipe du Point J. Le temps est toujours assez ensoleillé, mais des cumulus vont commencer à se former avec des averses et des orages prévus. Ils pourront s'accompagner localement de fortes rafales de vent ou de grêle, 28 degrés au maximum. Demain lundi, ça se rafraîchit, maximum 22 degrés, un ciel souvent très nuageux, même programme jusqu'à mercredi au moins. Le soleil devrait faire son retour jeudi.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Sur l'autoroute
trafic RTS.
Pardon, sur l'autoroute Martigny-Vevey, la circulation est dense et ralentie entre Saint-Trifon et le tunnel de Glion, direction de Vevey. Sur l'axe Chiasso-Lucerne, des colonnes s'étendent sur 6 km entre Quinto et l'entrée sud du tunnel du Gothard, ce qui représente une heure d'attente en direction de Lucerne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à mes collègues en régie, Colin Courte et Alexandre Davoine, Esther Coco à la rédaction en chef. L'information continue, bien sûr, sur la RTS, puisqu'il est tout juste 13h. Bon après-midi.